Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Okapi. C'est l'heure de notre journal parlé. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières nouvelles locales et internationales. Voici le principal titre de ce jour. Tension armée au sud Kivu. Des combats intenses opposent les Wazalendo soutenus par le FARDC aux forces de l'AFC M23 appuyées par le Rwanda depuis hier à Katana, dans le Kabare et à Burale, dans le Walungu. Des témoins oculaires rapportent des dégâts matériels et humains considérables. Indignation générale des conseillers communaux de toutes les provinces face à la clôture du cycle électoral 2023 par la CENI. Ils dénoncent que les bourgmestres nommés par les autorités ne reconnaissent pas leur légitimité et refusent de rendre des comptes. Et selon eux, l'absence d'élections locales constitue une violation de la Constitution entravant le développement local et la décentralisation. Quels sont les bienfaits du lavage des mains? Se laver les mains régulièrement aide à éliminer les germes et les bactéries, aide à prévenir les intoxications alimentaires, à limiter les risques d'infection de la peau, offrant ainsi de nombreux avantages pour la santé. Dans cette édition du journal, nous accueillons Jean-Jacques Diabanza, chef de la division hygiène et protection au secrétariat général du ministère de la Santé, pour discuter de stratégies visant à encourager les populations à adopter le lavage de mains comme une habitude. Il est notre invité et maintenant passons au détail de ces informations. Gisèle Cage à la présentation de cette édition du journal. Nous ouvrons ce journal avec cette information de dernière minute. Depuis 3h du matin, c'est dimanche, la route nationale numéro 1 est bloquée au niveau du territoire de Kasangulu, dans la province du Congo central. Cette information nous a été confirmée par la société civile locale. La cause de cette interruption est un nouvel affaissement de la route à hauteur de l'endroit appelé 9 étages suite aux pluies qui se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le même endroit où une grande érosion s'était formée lors des pluies diluviennes des 4 et 5 avril dernier. Selon Jean-Jacques Komba, coordonnateur de la société civile de Kasangulu, cet affaissement est dû à l'absence de canalisation pour les eaux. Il appelle les autorités à lancer d'urgence des travaux pour prévenir une scission entre Kinshasa et le Congo central. Au sud Kivu, des combats violents opposent les Wazalendo soutenus par les FARDC aux forces de l'AFC M23 appuyées par le Rwanda depuis hier samedi à Katana dans les territoires de Kabare et à Burale dans les territoires de Walungu. Des témoins oculaires rapportent des dégâts matériels et humains considérables. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
Dans les territoires de Kabari, les affrontements sont violents depuis hier samedi soir dans les agglomérations de Kabamba et Katana Centre. Les Wazalendo ont délogé le FC M23, mais ces derniers ont réapparu ce dimanche dans la matinée. D'après nos sources, le M23 quitte massivement l'aéroport de Kavumu en direction des lignes de front plus au nord sur l'axe Katana, Kabamba et Kalehe. Pendant ces temps, les Wazalendo tentent aussi de déborder jusqu'à l'aéroport de Kavumu, largement dégarni. Du côté du territoire de Walungu, toutes les activités de ce dimanche des rameaux sont suspendues à la paroisse du Burale. C'est à la suite de la reprise des combats ce dimanche, après une accalmie de quelques heures. Une auberge soupçonnée logée les M23 a été incendiée par les Wazalendo à Machango Burale. Un véhicule gardé dans la même parcelle aussi a été calciné. Selon nos sources toujours, des tirs assourdissants sont entendus dans tout le coin du groupement de Burale. Cependant, le bilan des victimes de ce bombardement reste jusque-là inconnu.
En Ituri, des individus présumés appartenir aux ADF exigent des paysans le paiement de 10 dollars américains pour accéder à leur champ dans le village de Matolo, situé dans le territoire de Mambasa. Selon des activistes de droits humains qui ont dénoncé cette situation hier samedi, c'est hors la loi, distribuer des jetons à ceux qui se conforment à cette exigence, tandis que les contrevenants risquent la mort. Ils appellent à une intervention rapide de l'armée pour expulser ces rebelles de la zone. Martial Kizabia Mungu pour le détail.
C'est depuis bientôt un mois que la présence des ADF est signalée dans la zone des Matolo. Selon des activistes de défense des droits humains, depuis le 8 mars dernier, des hommes armés identifiés aux rebelles des ADF sont visibles au centre des Matolo. Ici, ils exigent de la population, composée majoritairement des cultivateurs, de payer un montant de $10 américains avant d'accéder aux champs de cacao. Par pair, certains habitants ont fui vers Bahaha et d'autres vers Mamové et Beni. Celles qui ont choisi de rester sur place se soumettent à cette exigence des rebelles. Jospé Paloukou, président de la nouvelle société civile de Mambasa, craint que si rien n'est fait, ces présumés ADF n'installent une administration parallèle dans cette région. Il demande à l'armée de lancer des opérations militaires pour chasser ces insurgés de cette région stratégique.
Nous appelons toujours les autorités à pouvoir sécuriser la population. Mais nous sommes en train de craindre l'installation d'une administration parallèle.
Des sources militaires de FRDC à Mambasa dénoncent l'existence d'une collaboration entre certaines populations locales des Matolo et ses environs et ses rebelles des ADF, ce qui ne facilite pas le travail de l'armée, ajoutent les mêmes sources. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
À Beni, au Nord Kivu, la quête de la paix se poursuit. Vendredi dernier, une délégation de la MONUSCO a rencontré les habitants du quartier Sayo, dans la commune de Mulikira, pour discuter des moyens de restaurer la sécurité un an après le massacre tragique de plus de 60 civils par les ADF. Ensemble, ils ont discuté de renforcer la coopération entre les forces FARDC, PNC et MONUSCO pour organiser des patrouilles régulières dans la région. Cette initiative vise à rassurer les habitants et à encourager leur retour dans les quartiers. Amani Kambale, un acteur de la société civile à Sayo, partage ses réflexions au micro de Marc Marofimbo.
Parce que depuis l'année passée, le quartier Sayo a été victime des atrocités des ADF qui ont perpétré des massacres de plus de 60 civils. Alors, comme il y a encore des inquiétudes sécuritaires, nous avons sollicité leur accompagnement de nos forces de sécurité, notamment la police et le FRDC, pour rassurer davantage la sécurité, pour permettre le retour des populations dans leurs champs et dans leurs habitations de Sayo. Nous avons recommandé la planification conjointe des activités des zones, de la mutualisation des forces pour renforcer la sécurisation au niveau de Sayo. Ça veut dire que nous voulons voir une franche collaboration dans la sécurisation de la population, notamment que le FRDC, la police et la MONUSCO soient toujours ensemble dans les missions de protection des civils. Puisque nous savons que la MONUSCO est plus outillée en termes de renseignements, il y a des outils pour les renseignements, elle a la logistique nécessaire, il y a des programmes de droits de l'homme, elle peut appuyer le FRDC dans les différents domaines, comme l'appui à logistique et l'appui à renseignement. Et nous avons estimé que ça peut être un appui considérable qui est conforme également avec le mandat de la MONUSCO. Nous avons aussi soulevé le problème d'accessibilité de certaines cellules de notre quartier.
La population a sollicité un renforcement des capacités locales en matière de droits de l'homme et de protection des civils, ainsi que des formations professionnelles pour occuper les jeunes désœuvreux du quartier. Dans la même région, l'ONG de défense des droits humains, Fondation Prime Metal Mundu Ngawe, basée à Butembo, Nord Kivu, se félicite de la libération cette semaine de 117 détenus de la prison centrale de Beni grâce à une mesure de grâce présidentielle, selon Kakou Les Moussavouli Prime Metal, son coordonnateur. Cette libération contribue à désengorger cette prison qui héberge actuellement plus de 1500 détenus, alors que sa capacité d'accueil n'est que de 250 places, tout en exhortant les bénéficiaires à adopter un comportement exemplaire. Ces défenseurs de droits de l'homme espèrent que les autorités appliqueront une mesure similaire à la prison de Butembo. Kakou Les Moussavouli s'exprime au micro d'André Kitenge.
Au désengorgement de la prison de Kankwaï, là où nous étions aux environs de 1500 détenus, maintenant le gouverneur avait libéré 117 détenus, dont parmi eux, il y avait 3 femmes. Et nous l'attendons aussi à Butembo, dans la prison de Kakwangura. Vu qu'il y a eu plusieurs camps de décès, c'est comme l'année passée, nous avions enregistré une affaire de 147 camps de décès dans la prison de Kankwaï à Beni, ce qui fait que la prison nous aide pour la correction des détenus. La grâce présidentielle pour nous, ça a été vraiment une joie, parce que parmi eux, il y avait ceux-là qui étaient condamnés, qui venaient de piger le 3/4 de leur peine. Et la libération de ces détenus était conditionnelle. C'est pour dire que ceux-là qui ont été libérés, ils doivent se comporter comme des sages et non plus retourner en prison. Vous savez, quand on est en prison, il y a plusieurs besoins. Sanitaire, habillement, appui juridique, et aussitôt quitter la prison, vous devenez encore utile dans la société.
L'annonce par la CENI de la clôture du cycle électoral de 2023 a provoqué une vive indignation parmi les conseillers communaux de toutes les provinces. Pour ces candidats, ces élections représentaient le socle de leur engagement politique. Ils dénoncent le fait que le bourgmestre actuellement en fonction, nommé par les autorités provinciales, ne reconnaissent pas leur légitimité et refusent de le rendre des comptes. De plus, certains de ces conseillers communaux avaient également postulé aux élections des conseillers urbains, attendaient leur tenue après avoir versé leur caution. Ils estiment que le non-organisation de ces élections locales constitue une violation de la Constitution, entravant ainsi le développement local et le processus de décentralisation pour toute la durée de ces mandats. Maître Séraphin Karangaï-Lunga, délégué du collectif des candidats bourgmestres et conseillers urbains en RDC, est lui-même candidat conseiller urbain dans la circonscription de la ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental, expriment leur mécontentement dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
Nous sommes vraiment au regret de constater que la situation électorale pour finir la dernière manche a été bouclée par la CENI pour dire que le processus de 2023 a pris fin. Alors que ce n'est pas le cas, la même CENI a publié un communiqué pour que nous puissions déposer nos candidatures. Après avoir récolté nos candidatures, le BRTC a été fermé et la même CENI nous fait voir qu'ils ont la difficulté d'organiser ces élections par rapport au manque de moyens. Et la CENI demande au gouvernement congolais de pouvoir financer à la hauteur de 59 millions de dollars pour que ces élections soient effectives. Ce que nous attendons le plus risque de ne pas être organisé. C'est pourquoi nous demandons le plus vite possible que le gouvernement congolais puisse financer à la hauteur de ce que la CENI attend pour que ces élections soient organisées. Nous avons payé nos cautions et l'État ne peut pas nous escroquer de connivence avec la CENI. Nous attendons impatiemment que ces élections soient effectives et que la décentralisation et le développement à la base soient respectés.
Dans la province de Lomami, un sit-in poignant a eu lieu vendredi dernier au bureau de la Direction générale des impôts, DGI, d'Ngandajika, des malades internés à l'hôpital Guadeloupe. Des sœurs salésiennes désespérées ont manifesté pour réclamer la réouverture de leur centre hospitalier scellé jeudi dernier par ce service public de l'État en raison du non-paiement de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Selon les directeurs de l'hôpital, ces patients vulnérables ont été brutalisés avant de pouvoir récupérer les chaises, ajoutant à leur souffrance et leur détresse. Docteur Philemon Mariero, médecin directeur de l'hôpital Guadeloupe, a été joint par Esther Ndalafina.
Comme vous le savez, c'est un hôpital qui a été construit par Roger Ditunga. Et après la construction, le projet a remis ça à la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco. Les sœurs ont fait intégrer l'hôpital à la politique nationale de l'État. Tous les personnels sont déclarés au niveau de l'État. Mais à notre grande surprise, l'équipe de la DGI est descendue jusqu'à l'hôpital. Moi, j'étais au bloc opératoire. Alors, j'étais obligé d'interrompre l'intervention. Il y avait un attroupement. On a sorti tous les malades dehors. Selon leurs termes, ils sont venus sceller l'hôpital. On a essayé de discuter, mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils avaient déjà amené des chaînes, des affiches pour dire qu'ils ont saisi des histoires. Ils ont mis les malades qui étaient en attente pour la consultation. Ils se sont mis par terre. Ils ont pris toutes les chaises. Ils ont lié ça avec des chaînes dans un local de l'hôpital pour dire qu'ils ont saisi tout. J'ai dit non. Si vous avez fermé l'hôpital, ça veut dire que vous avez pris toutes les dispositions quant à ce. Donc, amener le véhicule, que ça vienne chercher les malades qui sont hospitalisés. Comme ça, vous cherchez où est-ce que vous allez les mettre. Et on s'est tiraillé hier là. Les malades se sont décidés d'aller au niveau de la DGI pour leur sort. Comment est-ce qu'ils vont continuer à prendre les soins. Alors, c'est ça qui nous a un peu indignés.
Contacter le chef de centre de la DGI Ngandajika rejette ces allégations. Il affirme cependant que cet ASBL n'a jamais payé les impôts au niveau local. Quittons la Lomami pour le Maniema. Un groupe de femmes et des couples a été sensibilisé à l'importance de la campagne de vaccination par l'ASBL Revivre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du groupe de soutien des femmes et des couples modèles pour leur implication dans les activités vaccinales de la région de la zone de santé d'Alungouli. Cette activité fait partie de la mise en œuvre du projet Fonds d'accélération d'équité exécuté par Sanru en partenariat avec Ouaki Maniema. Selon les organisateurs, il s'agit d'une stratégie d'éducation contenue pour la communauté afin de promouvoir la vaccination. Présent lors de l'événement, le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination Maniema a félicité et encouragé ce type d'initiative dans la province. Florence Kizalunga, reportage.
Nous sommes dans la commune d'Alungouli, devant la paroisse Saint-Paul. Ces groupes de femmes et couples modèles accompagnés de relais communautaires échangent sur la promotion et l'importance de la vaccination complète. Docteur Jacques Binyangi à Tibou est le point focal de Revivre.
L'objectif, c'était de redynamiser les activités féminines qui concernent la sensibilisation sur la vaccination et la promotion de toutes les maladies évitables par la vaccination dans la province du Maniema.
Un membre des couples modèles formés explique son rôle.
Nous, couples modèles, nous faisons toujours des sensibilisations par rapport aux vaccins liés aux différentes maladies ou handicaps qui arrivent surtout aux enfants. Nous sommes en train de sensibiliser d'autres couples.
Docteur Justin Yembe, chef de ce projet, en donne l'historique.
Lorsque nous avons organisé les diagnostics communautaires dans les aires de santé à travers les plateformes des usagers, nous avions constaté que la plupart des barrières et obstacles étaient orientés vers la question des genres, c'est-à-dire qu'il y avait l'ignorance par les femmes de l'importance de la vaccination. Il y avait également l'indifférence des hommes. Alors, nous nous sommes dit qu'il faille mettre en place les mécanismes de pouvoir impliquer et les hommes et les femmes et de faire à ce que les femmes puissent être sensibilisées et éduquées par rapport à l'importance de la vaccination.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Moyen-Orient, le dernier hôpital en activité de la ville de Gaza a été touché par des frappes aériennes israéliennes la nuit dernière. Selon la défense civile palestinienne, l'hôpital Baptiste Al-Ali, qui était un lieu vital pour les blessés et les patients, est désormais hors service. Des images prises au sol montrent des lits, des patients et des civils palestiniens blessés, éparpillés dans les rues, sans personne médicale ni soins médicaux.
L'invité.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Diabanza, chef de la division hygiène et protection au secrétariat général du ministère de la Santé. Ensemble, nous allons explorer la problématique du lavage de mains, les préalables indispensables et les stratégies pour encourager les populations à adopter cette pratique comme une habitude quotidienne. Il partagera également le insight précieux sur l'expérience menée au Congo-Brazzaville dans ce domaine. Jean-Jacques Diabanza s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Jean-Jacques Diabanza, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez organisé un atelier sur la réflexion concernant justement le fait d'accélérer les services de lavage de mains ici à Kinshasa. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet atelier?
Monsieur le secrétaire général, à travers les rapports que nous lui présentons, il s'est dit, bon, ok, la situation ici, ça ne va pas. Chaque fois qu'il y a une épidémie, il faut se laver les mains. Mais après l'épidémie, les gens ne se lavent plus les mains. Quand on va voir les maladies fécoorales, beaucoup de fièvres et typhoïdes, eh bien, ils disent non, il faudra réfléchir. Et c'est comme ça que M. le secrétaire général a instruit notre directeur pour dire qu'il faut organiser une matinée pour réfléchir sur le lavage des mains. Mais je crois que l'essentiel, ce que nous devons retenir, c'est que le lavage des mains, c'est quelque chose que l'on ne doit pas abandonner. Pas parce qu'il n'y a pas d'épidémie qu'on ne va pas se laver les mains. Donc que ce soit en épidémie ou en dehors des épidémies, le lavage des mains doit être notre ami de tout le jour. De tous les jours, parce que ça nous permet de nous débarrasser de tout ce que nous prenons ça et là, portière, sur la moto, dans les toilettes, vous avez les téléphones à tout moment que nous déposons où, on ne sait pas, pour que tous ces germes-là ne puissent pas entrer dans la bouche.
Vous ne pouvez pas accélérer ou même pérenniser les systèmes de lavage des mains, ou même ces mécanismes de lavage des mains, sans avoir de préalables. Et quels sont les préalables?
C'est vrai, au potable, nous avons une faible couverture. Mais il faut se dire qu'on a plusieurs façons de potabiliser l'eau. Et donc, déjà de par le système tel qu'il est organisé chez nous au ministère de la Santé, il y a le niveau national, il y a le niveau provincial, il y a le niveau des zones de santé et il y a des aires de santé. Et donc, ici, quand M. le secrétaire général donne une instruction au chef de division provinciale de la santé, et à leur tour répercute au niveau des médecins chefs des zones, les médecins chefs des zones répercutent au niveau des infirmiers titulaires, et les infirmiers titulaires passent les messages au relais communautaire. Et bon, là, on est prêt à couvrir tous les pays en matière de lavage des mains. C'est vrai, l'eau peut poser un problème. Mais la question se pose, qu'est-ce que nous vivons? Donc au moins, chaque ménage s'organise pour trouver de l'eau à boire. C'est vrai, on ne peut pas faire le 100%. Mais au moins, on peut aller même jusqu'au-delà des 60%. Parce qu'aujourd'hui, la couverture en eau potable, elle est autour des 55%. Bon, il y a des efforts du gouvernement qui sont mis en place pour qu'on donne de l'eau à tout le monde. Et le lavage des mains pour nous, nous on doit précéder. L'eau va venir, mais on donne déjà les orientations. Quand l'eau arrive, vous avez de l'eau potable.
Mais alors, il y a aussi la sensibilisation qui pose des problèmes. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution au niveau des communautés de base?
Bien, je crois que nous avons plusieurs canaux, plusieurs opportunités pour passer le message. Et je l'ai dit au départ, le vœu, c'est de renforcer les capacités, leur dire comment ça doit se faire. Ce n'est pas seulement venir parler, mais il y a maintenant des exercices qui doivent être associés à ça pour arriver à mener chacun. Il faut que chacun se lave les mains. C'est pas de façon communautaire. D'abord chacun et puis la communauté. Mais quand la communauté a compris le bien fondé du lavage des mains, je crois que ça sera fait. Nous avons beaucoup de canaux. Vous-même, vous êtes un canal important. Quand vous parlez ici, vous savez combien de personnes vous suivent. Pas à Kinshasa, pas seulement en RDC, mais dans le monde entier. Les gens vous suivent. Donc, en fait, nous avons des spécialistes, des experts en la matière pour la promotion de l'hygiène. Je crois qu'on va s'y mettre. Au regard de ça et au regard des recommandations que nous venons de formuler pendant ces ateliers, nous allons les y mettre. On ne va pas oublier les confessions religieuses, on ne va pas oublier les écoles, parce qu'un enfant, quand le maître a dit, vous comprenez ce que ça fait. Donc, les actions seront prises pour que nous arrivons effectivement à accélérer.
Et on a parlé de l'expérience du Congo-Brazzaville. Dans l'implication même des communautés. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs de Radio Capi cette expérience et puis comment ça peut profiter aussi à la République démocratique du Congo?
L'expérience du Congo Brazza montre qu'il y a des exercices qu'il faut associer au lavage des mains. Il y a des exercices, nous ne les avons pas associés. C'est vrai, on a très peu associé ces exercices en milieu rural dans quelques provinces. On ne va pas seulement parler aux gens lavage des mains. Pour parler lavage des mains, on fait d'abord des exercices pour que chacun se rende compte, même quand j'ai visiblement mes mains propres, qu'en réalité, elles sont sales. Avec ces exercices que nous allons intégrer dans notre façon de faire, c'est comme ça que j'ai parlé de la formation, du renforcement des capacités, on va apprendre aux uns et aux autres, voir comment cela doit être fait. Et je crois que nous allons vraiment... Cette expérience, nous la copions déjà. Et ça marche chez nous, mais c'est question d'étendre. Mm-hmm. Et c'est comme nous avons dit, il y a un groupe qui a travaillé sur le financement. Et donc c'est question d'un bon plan et un bon financement. Je crois que nous allons y arriver.
Monsieur Jean-Jacques Diabanza, moi je vous remercie.
Merci beaucoup, je vous remercie aussi.
Notre invité Jean-Jacques Diabanza, chef de la division hygiène et protection au secrétariat général du ministère de la Santé, s'est entretenu avec Jean-Pierre Elali Ikoko. C'est ainsi que se termine notre édition du journal sur Radio Capi, mise en onde par Polydor Basunga, la coordination par Jacques-Yves Molima et la présentation par Gisèle Cage. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de consulter notre site www.radiocapi.net pour rester informé en temps réel. Nous vous remercions de votre présence et votre fidélité. Passez une excellente journée dominicale. Nous nous retrouvons prochainement sur la même fréquence.